L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Voici notre rendez-vous d'histoire antique, cette saison donc en compagnie de Pauline Huon, dont la thèse s'est intéressée au sujet finalement toujours original de la place du corps et des parures dans les rites de passage à Rome et en Italie du 3e siècle avant et jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Ça fait une longue période. Notre série d'émissions touche néanmoins à sa fin. Après la naissance, le passage à l'âge adulte, le mariage, la conception, voici venu le temps de mourir. Mais comment mourrait-on à la romaine? Bonjour Pauline Huon.
Bonjour.
Alors quand on dit comment mourrait-on, peut-être qu'il faut repréciser que comme vous avez travaillé sur une vaste période, il y a eu des tendances différentes entre la République, l'Empire et même au long de l'Empire, des pratiques funéraires ont évolué. On en dira sans doute un mot au cours de l'émission. Mais pour autant, il y avait des permanences sur la vision que les vivants se faisaient du mort et de ce passage vers l'au-delà. Alors quelle était cette vision?
Alors la vision du corps mort, en tout cas, c'est vraiment une vision ambiguë, à la fois entre répulsion, fascination. On va être répugné par un cadavre, mais en même temps, on va vouloir justement apporter beaucoup de sollicitude à ce corps, à vouloir le magnifier, à rendre honneur en fait au vivant qu'il a été. Et finalement, à vouloir conserver cet aspect vivant jusqu'à la disparition effective du corps. Donc on a vraiment cette idée vraiment de, à la fois on s'en éloigne, mais en même temps on va apporter beaucoup de soins à ce corps.
Est-ce finalement c'est pas tellement différent de la vision qu'on a gardée nous des morts?
Oui, tout à fait. On a vraiment des permanences qui existent entre le monde antique et le monde contemporain, notamment dans l'idée qu'on doit exposer le corps, magnifier, maquiller, habiller avec des beaux vêtements. Qui correspondent en tout cas pour les Romains au statut social, mais surtout qu'on présente un mort comme un dormeur en fait.
Avec quand même peut-être une différence, c'est que pour les Romains, il y avait la notion de danger quand même. Le mort est dangereux, on ne sait jamais, il peut revenir. Fin...
Oui, exactement. En fait, on a cette idée qu'il faut rendre honneur aux morts, ou du moins aux vivants, comme je disais qu'il a été, mais c'est surtout on va devoir protéger les vivants de ce mort. Parce qu'on considère que si il a été mal enterré ou s'il n'a pas reçu les soins indispensables, justement, à son passage de la mort, de la vie à la mort, il va revenir hanter les vivants. Et là, vous avez plein de récits d'auteurs qui nous racontent que tel homme ou telle femme a été mal enterré, on n'a pas assez porté attention à sa sépulture, etc. Et que du coup, elle revient hanter les vivants. Et donc, on a peur justement de ça. Et donc, on a toute une série de rites qui vont être mis en place justement pour éviter d'avoir un fantôme dans la maison, quoi.
Alors, comme d'habitude, finalement, une thèse, c'est vrai qu'on travaille toujours sur des documents. Les documents accessibles concernent surtout les familles riches, les plus aisées. Mais est-ce qu'on sait quand même si c'était aussi, ça concernait aussi les Romains les plus pauvres, cette vision
Alors, en fait, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on a vraiment deux traitements diamétralement opposés entre les pauvres et les riches. C'est-à-dire que les riches vont avoir une durée d'exposition entre, on va dire, 5 et 7 jours, alors que les pauvres, eux... on n'a pas besoin de les exposer, en gros, on n'a pas envie de les exposer, donc on va les enterrer le plus vite possible. Il faut savoir aussi que là, je vous parle de monde méditerranéen, où il fait très chaud, et donc la décomposition du corps, elle est forcément beaucoup plus rapide qu'ici, par exemple, où on a des temps plus frais, plus humides. Donc les pauvres, en général, ils sont enterrés le plus vite possible, mais aussi parce qu'on a cette répulsion du cadavre, et cette idée qu'il va falloir justement stopper et mettre un véritable frein à la décomposition et à toutes les odeurs qui peuvent émaner de ces corps défunts.
Donc pas trop de soins en fait quand on est pauvre. De toute façon on n'a pas les moyens aussi de s'offrir
peu
ça
de
tout simplement.
Soins. Alors l'archéologie a levé aussi quand même un voile là-dessus, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des sortes de charriers avec des corps qui étaient entassés où on a retrouvé par des analyses chimiques des matières telles que de la gypse ou de la craie, de la chaux. Donc en fait des matières qui agissent en fait pour stopper la putréfaction, qui sont des matières desséchantes. Et donc, on a vu quand même qu'il y avait un traitement, on va dire, on va saupoudrer notamment de la chaux sur les corps pour freiner justement cela.
Ah oui, même dans les fosses communes, quoi.
Dans les fosses communes, parce que en fait, on a aussi, par exemple, Horace, un poète qui nous dit que sur l'Esquilin, quand il se balade, c'est très désagréable parce qu'il y a des odeurs de putréfaction. On enterre en fait les pauvres sur l'Esquilin, sur une des colonnes des collines de Rome, et il nous dit que ben, il est pas rare de buter contre un squelette, un ossement, et donc forcément, pour éviter ça, on va justement essayer de freiner ça avec des matières ou des odeurs assez fortes.
Alors, comment est-ce que, quand un décès survenait dans les familles aisées, donc on va revenir aux familles aisées, oui. Comment est-ce qu'on annonçait la mort au voisinage ?
Alors, il faut déjà annoncer la mort, d'une part parce qu'on considère que le mort est une souillure pour sa famille. Et donc, la famille va être, on appelle funeste. Et donc, elle va montrer aux voisins qu'il y a un mort dans la maison en accrochant des branches de cyprès ou de sapin. Festus, qui est un grammairien latin, explique qu'on pose de telles branches parce que c'est un arbre qui, une fois coupé, ne renaît pas comme le mort. Et donc ça, on va signifier visuellement cela et aussi par un univers sonore particulier. Donc c'est-à-dire qu'on va entonner de la musique très fort pour créer en fait une sorte d'atmosphère et éloigner aussi des personnes qui voudraient venir dire bonjour et qui, de fait, s'y rentraient dans la maison, seraient eux aussi souillés par la mort.
C'est là qu'en radio, il nous faudrait une reconstitution sonore. Ça serait quoi
Je suis pas sûre que ça plairait beaucoup à vos auditeurs. Ils changeraient vite de station.
On tapait dans des casseroles ou des trucs comme ça.
C'est un peu ça. C'est une musique vraiment des tambours, des flûtes, enfin quelque chose qui soit très dissonant en fait.
Et ça durait longtemps
Alors on n'a pas vraiment de texte qui nous renseigne sur le temps de cette, enfin la durée véritable de cette musique, mais on peut considérer que ça dure la journée, en tout cas peut-être que le soir il y a un répit qui va être donné au moins à la famille pour qu'ils puissent se reposer, mais on va dire que en tout cas pour les branches de sapin et de cyprès, elles vont être accrochées à la maison pendant 7 jours.
Mmh, d'accord. Alors l'annonce est faite. Quels sont les tout premiers gestes mortuaires qu'on fait au sein de la famille là?
Alors déjà, on va, une fois qu'on constate la mort, recueillir le dernier souffle du mort. Et donc, la façon qui va être privilégiée, c'est d'embrasser ce mort par la bouche, puisqu'on pense que l'âme du défunt s'échappe en fait par la bouche. Et donc là, c'est beaucoup de récits, beaucoup d'écrits qui nous disent que c'est soit la mère du défunt ou la femme du défunt. Alors, on nous parle essentiellement des hommes, hein, pour le coup. Ouais. Pour les femmes, on ne sait pas véritablement, mais ça devait être la même chose avec le mari, pour le coup, du défunt. Donc, on récupère cette âme du mort. Ça sert donc à la fois à cela, mais aussi, ça sert de dernier adieu, de montrer, en fait, la sollicitude qu'on a à l'égard du mort. Et donc, on va d'abord embrasser le défunt sur la bouche. La deuxième action, ça va être ce qu'on appelle l'oculus condere, ça veut dire fermer les yeux, en fait. Puisque on considère que les yeux ouverts, ce sont les yeux ouverts représentent la vie. Et donc là, on va marquer en fait l'état de mort en fermant les yeux, et aussi parce que on considère que les yeux sont le miroir de l'âme. Et là, puisque l'âme s'est échappée, on ferme les yeux.
Donc ça vient de là en fait. Enfin, c'est ouais, nous ça... ce qu'on continue à faire finalement.
Tout à fait. Alors c'est aussi pour éviter de choquer aussi les vivants qui s'approcheraient du corps, puisqu'il faut dire que le mort a un regard fixe et qui peut angoisser en tout cas les vivants aussi.
Et oui.
Il y a cette idée là aussi.
Et donc il y a ensuite la conclamatio, c'est ça ?
Alors la conclamation, oui, c'est le fait d'appeler le défunt à plusieurs reprises. Donc on va crier son nom, hein, c'est pas un petit appel, c'est vraiment on crie le nom du défunt. Et ça dure assez longtemps, parce qu'en fait, on a peur d'enterrer un vivant.
Oui.
Donc en l'appelant, on se dit que peut-être qu'il va se réveiller, en fait.
Ouais.
Et donc il y a cette idée-là, il y a aussi l'idée de vouloir retenir l'âme du défunt. En prononçant son nom, on sait que l'âme, elle va rester, on va dire, au-dessus de la maison et qu'elle ne va pas s'éloigner et errer, en tout cas, dans la ville. Donc, il y a cette idée-là et il y a aussi donc, cette idée d'endormissement. Et ça, c'est assez drôle puisqu'on a des textes, notamment chez Pline, qui nous dit que c'est pas rare, en fait, qu'il y ait des morts qui se réveillent. Donc, on a, par exemple, un homme, Pline l'Ancien, qui nous raconte qu'on a un grand bûcher au milieu sur le champ de Mars. Qu'on met le feu au bûcher et que d'un coup, le mort se met à crier et qu'il rentre chez lui à pied. Et donc ça, il y a des récits comme ça. Et pour les femmes aussi, la conclamation, elle est très importante parce que la femme va être plus sujette, on va dire, à des morts subites. C'est-à-dire qu'on considère que la femme à sa matrice qui erre dans son corps et que parfois la matrice, elle peut boucher les voies respiratoires. Et donc, il peut y avoir des morts apparentes et en la secouant, en l'appelant, hop, la matrice va bouger et elle va, ressusciter. Voilà,
tout à fait. D'accord. Et alors, il y avait aussi la pièce de monnaie qu'on déposait.
Alors, effectivement, alors ça vient après les soins du corps. On va soigner, on va préparer le corps et ensuite, on va placer une pièce de monnaie dans sa bouche pour que le défunt puisse payer son passage à Charon, donc le nocher des enfers. Et donc, pour traverser le Styx, le mort doit payer...
Le Styx qui est le fleuve,
Des enfers. Il doit payer, en fait, le passeur. Et donc, c'est pour ça qu'on place la pièce de monnaie dans la bouche.
C'était toujours la même somme ou il y avait une somme, un tarif?
Ah non, ça, je ne sais pas du tout.
D'accord. Alors, donc, ce tabou d'être enterré vivant, enfin, il y a peut-être aussi d'autres gestes qui sont faits, non? On ne pique pas les pieds ou des gestes comme ça pour s'assurer que le mort est bien mort?
Une des premières étapes aussi, c'est de placer en fait le mort sur les genoux, à terre, et d'observer en fait l'état de son corps. Voir si il y a une rigidité cadavérique, voir si la couleur du corps a changé, la température du corps aussi, qui est plus froid qu'un corps vivant. Et donc, il n'y a pas d'histoire de croquer un doigt ou autre, d'accord. Mais en tout cas, on a cette observation physique du corps.
Ouais. Et par des médecins ou pas vraiment, enfin...
On ne sait pas véritablement. Non, visiblement, il n'y a pas de médecin qui... Sauf si le défunt était malade juste avant, mais généralement, c'est des gestes qui sont des gestes qui se pratiquent par les femmes de la famille.
Et il y avait des médecins légistes à Rome ? Enfin, les Romains avaient des médecins légistes, non ?
Non.
Pas spécialement, d'accord.
Pas à ma connaissance, en tout cas.
Bon. Donc, il n'y avait pas de médecin spécialiste de la mort, si on veut ?
Non. Il y a plein de remèdes pour essayer de ressusciter ou en tout cas d'essayer d'améliorer l'état de santé, mais après on n'a pas véritablement d'enquête telle qu'on l'aurait aujourd'hui avec un médecin légiste. J'ai rien lu de la sorte en tout cas.
Donc il fallait exploser le corps du mort, donc on a dit un petit peu pour quelle raison, enfin pour lui rendre honneur et puis pour éviter qu'il revienne nous hanter en gros.
Tout à fait.
Et alors il y avait vraiment là tout un traitement, donc déjà c'était les femmes de préférence qui s'occupaient de ce traitement.
Alors ça se passe vraiment dans un univers exclusivement féminin, la mère, la femme, les sœurs. Ou alors, on a aussi mention d'esclaves qu'on appelle des polinctores, qui vient de pollen en fait, puisqu'on va appliquer sur le corps soit des pâtes faites à base de plantes ou des choses comme ça. Et donc, on a un traitement, on va dire, on va enduire le corps pour lui donner une bonne odeur. Puisqu'il faut présenter en fait le mort qui exhale une bonne odeur pour qu'il aille rencontrer les dieux.
Qu'est-ce qu'il y a comme type de parfum, par exemple ?
Alors, on a des parfums en fait. Dans les textes, on va lire souvent des parfums qui sont la fleur de Cilicie, les plantes de Judée, des parfums d'Arabie, etc. Donc c'est tout un univers oriental et donc on va trouver essentiellement des odeurs assez fortes. De la myrrhe, de l'encens, du nard, de la cannelle aussi, du safran, de la cinnamome. Enfin des odeurs en fait qui sont assez fortes et on trouve aussi du cèdre ou du camphre qui vont... véritablement agir comme une sorte pour freiner le processus de pourrissement et masquer les odeurs.
Ouais, c'est presque du désinfectant, quoi.
Ouais, y a vraiment.
Et le miel, d'ailleurs.
Miel. Ouais. Alors là, c'est vraiment pour les plus riches, on va dire, qui vont être parfois trempés dans leur sépulture dans du miel. C'est le cas, par exemple, d'Alexandre le Grand, qui a été transporté dans du miel.
Qui n'est pas romain, mais bon, c'est pas grave.
Non, qui n'est pas romain, mais en fait, c'est vraiment des traitements qui sont empruntés en fait aux orientaux.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, on a des traitements qui sont très similaires. On va trouver, et ça, pour le coup, ça se pratique beaucoup à Rome, on a trouvé des cercueils où des jeunes filles étaient enterrées dans de la saumure, où elles étaient frottées au sel, etc. Et donc, on a trouvé des corps, et d'ailleurs, les papes se sont empressés de les jeter, de se débarrasser de ces corps, parce qu'ils ne voulaient pas que ça devienne des objets, finalement, des reliques de saintes ou autres.
Il y a un maquillage, sinon, en plus de tous ces parfums
Alors, effectivement, on va maquiller le corps, puisqu'il faut finalement gommer tous les signes de la mort, donc la blancheur du teint, etc. Donc, on va appliquer des pommades sur le visage, on va rougir un peu les joues, les lèvres, et donc on va maquiller pour réinsuffler, en fait, les signes de vie.
Et le vêtement ? Enfin, non, il n'y avait pas d'embaumement. Enfin, c'était rare, les embaumements, vraiment.
On en a quelques-uns, mais c'est vraiment très, très rare. Il faut pas du tout penser à des embaumements à l'égyptienne, hein, pas du tout. On va pas éviscérer le corps, etc. En fait, c'est plutôt des traitements ou des embaumements on va enduire le corps en fait de parfums, mais on va pas insérer des aromates à l'intérieur. On a un seul cas qui est le cas de Poppée, la femme de Néron, qui, nous dit-on, aurait été éviscérée et remplie d'aromates. Mais c'est le seul cas, en tout cas, que moi j'ai pu lire dans les sources qui étaient les miennes.
Et le vêtement, donc très important toujours hein, chez les Romains à toutes les étapes de la vie.
Le vêtement, voilà, c'est le symbole en fait de son statut social. Et donc, quand on est un défunt, forcément, on va être présenté sous ses plus beaux atours. Et donc, on va mettre des vêtements qui vont vraiment permettre d'apprécier en tout cas la posture qu'avait le mort de son vivant. Alors, la tenue de base pour un homme, ça va être bien sûr la toge blanche. Mais ensuite, selon qu'on ait été magistrat, prêtre, etc., on va avoir une toge bordée de pourpre. On va pouvoir porter des couronnes aussi si on a été distingué de tel ou tel honneur militaire. Et donc, on a comme ça des vêtements qui sont représentatifs, nous dit Polybe, de la plus haute fonction que le Romain aurait briguée pendant sa vie.
Quand le mort est exposé, que fait la famille, enfin que font les proches ou l'entourage? Est-ce qu'il y a une cérémonie? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes?
Alors il y a plusieurs cérémonies. On va dire qu'il y a une cérémonie ou en tout cas un premier temps qui va être organisé à l'intérieur de la maison, le temps de l'exposition. Et donc là, on a une vraie théâtralisation, une mise en scène en tout cas de l'état de deuil. Et donc là, les femmes, puisque c'est souvent les femmes qui vont manifester avec outrance leur chagrin, leur tristesse, donc toutes les femmes de la maisonnée, hein, la mère, la sœur, la femme, mais aussi toutes les esclaves, vont jouer ou en tout cas marquer corporellement leur chagrin. Et donc là, on a des récits qui nous disent que les femmes vont se griffer les joues, s'arracher les cheveux, se tremper la chevelure dans de la boue, se recouvrir le visage de poussière, se salir en fait pour montrer aussi à quel point notre désarroi est grand. Et pour les mères, on a aussi des mentions de femmes qui vont se griffer les seins et le ventre. Donc finalement, tout ce qui a trait à la maternité. Les seins, parce que c'est ceux qui ont nourri, et le ventre, parce que c'est celui qui a porté.
Et ce sont des pleureuses, version trash, alors
Voilà, il y a les pleureuses rituelles aussi. Alors là, c'est pendant le convoi. Mmh. Donc là, en fait, on a une première... Pendant, on va dire, l'exposition du mort, on a la famille qui joue un rôle, mais après, on a aussi, durant le convoi funéraire, des pleureuses qui sont payées, justement, pour, en gros, exhorter la foule à partager la même tristesse que la famille.
Après la cérémonie privée, enfin familiale, est-ce qu'il y a une cérémonie plus publique sur le lieu d'exposition?
Alors, en fait, on a deux expositions. Une exposition dans la maison. Et ensuite, quand on est un grand homme, par exemple des empereurs, vont ensuite avoir une seconde exposition sur le forum, donc l'endroit le plus important de la cité romaine, où on va exposer en fait, le corps aux yeux de tous. Il faut que tout le monde puisse voir le défunt et apprécier qu'il est bien décédé. Donc on expose son corps. Ensuite, il y a une éloge funèbre qui est prononcée soit par le fils de la famille, soit par un proche qui va justement recenser tous les honneurs qu'il a pu avoir durant sa vie. Enfin, une sorte de CV du défunt amélioratif plus. Hein. Et ensuite, on a le convoi qui va amener le défunt de la ville jusqu'au Champ de Mars, qui est situé à l'extérieur en fait, des limites de la cité, du Pomerium. Pourquoi? Parce qu'on n'enterre pas et on n'incinère pas un mort à l'intérieur de la ville. C'est cause de souillure.
Ça, c'est vraiment c'est fréquent. Enfin, c'est pas seulement chez les Romains, d'ailleurs. C'est souvent quand même qu'on met les morts à part. Quoi.
Exactement. Mmh.
Et donc, justement, puisqu'on en arrive à l'inhumation elle-même ou la crémation, enfin, ça a évolué. Donc, comment il y a eu des tendances à l'inhumation plutôt, à la crémation, enfin, quelles ont été les différentes époques?
Alors, on va dire que sous la République, on va plus facilement incinérer les morts. Ensuite, il va y avoir un désamour de l'incinération pour l'inhumation. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est quelque chose de très familial. C'est-à-dire que selon les traditions de la famille, on va plus ou moins plus facilement enterrer ou incinérer un mort.
Ah oui, c'est pas une question d'époque forcément.
Il y a une question d'époque qui joue, mais ce qu'on remarque en tout cas quand on observe vraiment les lignées, on remarque que finalement on va plus facilement soit incinérés, soit inhumés. Par exemple, à l'époque des guerres civiles, on va avoir un retour de la crémation. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie qu'on vienne profaner les corps défunts. Et donc, s'ils sont réduits en cendres, eh ben, ça sera beaucoup plus difficile en fait, de venir malmener les corps, etc.
Oui, parce que la profanation, j'imagine que ça devait être quand même assez courant, surtout si les corps étaient à l'extérieur. Enfin, ils n'étaient pas surveillés.
Il y a des esclaves qui sont chargés de surveiller les corps. Alors, durant l'exposition, surtout. Mais on a des récits, par exemple, Pompée, le père de Pompée, a été en fait arraché de son lit funéraire par la foule et balayé, accroché à un croc et transporté, défiguré en tout cas par la foule en le traînant par terre, en le salissant, etc. Et donc on a cette idée justement qu'on va valoriser le corps et donc valoriser aussi ce qu'a été le mort. Et à l'inverse, on va mutiler, abîmer, salir le corps des hommes que les Romains vont juger avoir été des mauvais Romains, etc.
Alors, quand on lit votre thèse, Polignon, on se rend compte qu'on pourrait faire une émission entière sur la crémation, mais est-ce qu'on peut dire quand même un mot de tout ce processus ? Parce que c'était vraiment un processus...
Pour la crémation, ouais. Du coup. Alors la crémation, en fait, il y a plein d'étapes. C'est-à-dire que on va construire déjà un bûcher qui va être aussi important qu'elle a été le défunt. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un empereur, vous allez avoir un bûcher à étage avec dedans des pierreries, des statues, des tentures. Enfin, c'est vraiment en fait la dernière demeure, en tout cas visible par les Romains. Et donc finalement, on va rivaliser de luxe dans des funérailles pour montrer à quel point le défunt était important. Et donc, il faut qu'il soit bien construit, il ne faut pas qu'il soit bancal, etc., parce que de la structure du bûcher va dépendre aussi la bonne crémation. Et donc, pour justement rendre honneur aux morts, il faut que son corps soit entièrement brûlé et qu'il n'y ait pas, par exemple, des petits morceaux qui restent, etc. On a des cas, par exemple, Caligula aurait été incinéré à la va-vite, sans cérémonie, etc. Et donc, on nous dit que son fantôme hante les jardins de Lamia, qui se situent à côté du palais. Et donc, ses sœurs, qui reviennent d'exil après plusieurs années, vont désenterrer en fait, les restes pour les brûler entièrement. Et là, le fantôme de Caligula est apaisé, et donc il arrête de venir hanter les vivants. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'il faut bien incinérer le corps. C'est très important. Une fois qu'il a été incinéré, alors aussi pendant que le corps brûle, on va jeter des offrandes. Tout ce qui va avoir de l'importance, par exemple, si vous êtes une femme, vous allez jeter vos bijoux, vous allez jeter des tentures de prix, des choses de valeur, des vêtements, des beaux vêtements. Vous allez aussi jeter des parfums pour justement alimenter les flammes du bûcher et qu'elles sentent bon. Vous allez aussi avoir des offrandes organiques. Ça peut être des cheveux. Donc, on va s'arracher des cheveux, se couper des cheveux, les offrir dans le bûcher. Et des larmes aussi. On nous parle de vases lacrymatoires. Donc, en gros, vous prenez un petit vase, vous recueillez vos larmes et vous les jetez soit dans la tombe, soit sur le bûcher. Et donc, vous avez comme ça plusieurs offrandes qui sont effectuées. Une fois que le bûcher a entièrement brûlé, vous avez le recueil des os. Donc on va récupérer tous les ossements, donc trier entre eux les morceaux de charbon, etc., les placer dans une urne. Et ensuite, il va pouvoir être placé donc, dans la sépulture. Et le plus important, ça dépend, que ce soit pour la crémation ou l'inhumation, il faut recouvrir le corps de terre. Et c'est là que le rite est vraiment terminé.
Ah oui, même dans la crémation, il y a une inhumation finalement.
Tout à fait.
Et c'est oui, voilà, les sépultures sont au même endroit pour, selon les périodes d'inhumation ou de crémation, elles ont été à peu près ensemble. Enfin,
Ça. En fait, vous avez en gros, dans les nécropoles, vous avez soit des cinérariums où on va placer les cendres, ou alors des emplacements tels qu'on pourrait le voir, nous, dans nos cimetières aujourd'hui.
Ouais, c'est comme chez nous, quoi.
Comme chez nous.
Et les cimetières romains, juste un petit mot, ils étaient plutôt arborés ou plutôt très minéraux comme les nôtres en France, enfin.
C'est très difficile à dire. En fait, souvent, alors par exemple à Rome, pour ceux qui sont déjà allés à Rome, si vous avez arpenté la Via Appia, qui est en fait la grande, la plus vieille voie romaine amène les Romains à l'extérieur de la ville, vous avez en fait des tombeaux qui peuvent être des tombeaux magistraux en fonction de la du prestige de la famille. Et donc, vous avez, en fait, c'est des tombes qui sont situées, en fait, sur les rebords de la ville. Ce n'est pas forcément un cimetière tel que...
C'est en bord de route, quoi.
Voilà, enfin, c'est ouais, en bord c'est de ça, route, ouais. Avec des épitaphes qui indiquent « Toi, le passant, regarde, c'est ma tombe, j'ai vécu combien tant d'années, mange un morceau sur ma tombe. » C'est quelque chose aussi où les vivants vont partager des choses sur la tombe.
Oui, c'était une question que j'avais. Ouais. Est-ce qu'ils ne vont peut-être pas fleurir la tombe comme nous on le fait, mais ils ont aussi leur... ils reviennent, ils ont leur souvenir, ils entretiennent le souvenir aussi.
C'est ça, parce que c'est la dernière demeure du vivant, en fait, qui est désormais mort. Mais on va fleurir la tombe. Lors des parentalia qui se déroulent au mois de février, qui sont des fêtes en l'honneur des ancêtres, on va venir offrir, grâce à des conduits de libation, en fait, dans les tombes, vous avez des conduits qui amènent soit directement dans l'urne cinéraire, soit directement dans le cercueil, et on va verser des parfums. On va aussi donner à boire aux morts, on va lui verser du vin, on va lui donner à manger. Et donc, on a cette idée qu'il faut continuer à alimenter et à honorer, en fait, la mémoire du mort par ces types d'attention-là.
Eh bien, on arrive déjà à la fin de l'émission, à chaque fois ça passe beaucoup trop vite. On arrive aussi à la fin de ce cycle, Pauline Huon, merci.
Merci
pour toutes ces émissions sur la place du corps, des parures dans les rites de passage, donc à Rome et en Italie, du 3e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ. C'est donc une série d'émissions que je vous invite à réécouter sur le site internet de Radio Évasion. Merci.
Merci à vous.